Tout le monde le sait, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Et cependant, Noël reste le seul moment de l'année, le seul moment de l'année où les chrétiens parlent de cet événement extraordinaire dans l'histoire de l'humanité où Jésus a quitté le ciel et est venu dans le monde. C'est le seul moment. D'ailleurs, si on parle de cet événement à un autre moment de l'année, on va nous dire « mais ce n'est pas Noël encore ». Comme si parler de ce miracle extraordinaire était réservé à une période particulière de l'année. Et quand on y pense, c'est sans doute le miracle le plus incroyable dont nous parle la Bible. Ce moment où Dieu l'Éternel lui-même, en Jésus, vient dans le monde pour sauver l'humanité et recommencer à zéro, à trois fois rien. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit au verset 7 qu'il s'est dépouillé lui-même. Le texte, en fait, dit exactement « il s'est vidé lui-même ». Jésus s'est vidé pour venir comme un homme, comme un simple homme, dans ce monde. Et il a aussi vidé le ciel de sa présence. Les anges, d'ailleurs, ont eu du mal à comprendre ce qui se passait. Leur maître bien-aimé n'était plus là, il était parti. Jésus avait quitté le ciel. Et ils se sont même demandé où il était, parce qu'il n'était même pas sur la terre non plus. Il n'était pas encore né. Où était-il, ce Dieu grand, tout-puissant, l'Éternel, celui qu'ils adoraient, leur maître? Où était-il? Il avait disparu. Quand on lit dans les évangiles, dans Matthieu et dans Luc en particulier, les premières pages qui nous racontent le début de la vie de Jésus sur la terre et de son ministère, on est étonné de voir l'abîme qu'il y a entre ce que Jésus vient faire et ce que les gens attendent de lui au moment où il est venu. C'est comme si, avant même qu'il vienne, on avait préparé un cahier de charges de ce qu'il devrait être et de ce qu'il devait faire et de la manière dont il devrait le faire. Et lorsqu'il vient, il y a déjà une liste toute prête de choses qu'il doit faire et être, d'après ce que les gens de son temps avaient pensé. Il est comme précédé d'une foule d'attentes à son sujet, et qui, lorsque l'on lit le texte, ne correspondent pas à ce qu'il est venu faire. Ainsi, s'il se prétend être le Messie, il faudra qu'il fasse ceci et cela encore. Et on s'attend à ce qu'il remplisse les attentes que l'on a sur lui à son temps. Et pourtant, en relisant les premières pages de l'Évangile, Jésus nous prend véritablement par surprise parce que on dirait qu'il fait tout à l'envers de ce qu'on attend de lui. L'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur, c'est lui qui vient. Eh bien, allez à Bethléem. À Bethléem, personne n'est au courant qu'il vient. Les gens de la ville ne vont même pas se déplacer pour aller voir ce bébé qui est né dans une étable. Des bébés qui naissent, il y en a tous les jours. On ne va pas se déplacer pour voir un bébé qui est né, il y en a tous les jours, qui naissent partout, des milliers. Les gens à Bethléem sont trop occupés à faire la fête avec leurs familles qui viennent d'arriver de tous les coins du pays. On est occupés les uns avec les autres, on n'a pas le temps d'aller voir un bébé qui vient de naître. Personne ne s'est intéressé à la chose. Personne n'a imaginé un seul instant à Bethléem que ce bébé qui naissait, c'était le Dieu éternel, le Créateur en personne qui était venu. Et les bergers dont on parle tout le temps, les bergers, ils ne sont venus que parce qu'ils ont eu une vision dans laquelle l'ange leur a dit ce qu'il fallait faire et où il fallait aller. Les autres bergers de la contrée, dans les autres collines, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, ils ne sont pas venus non plus. Les mages qui sont arrivés à Jérusalem ont naïvement demandé « il y a un roi qui est né, où est-il ?» La panique, c'est Hérode qui l'a mis dans Jérusalem parce qu'il a entendu parler d'un autre roi que lui et ça n'allait plus. Mais ils sont allés à Bethléem et on n'en a plus entendu parler. De Jérusalem d'ailleurs, personne n'est venu à Bethléem pour voir ce qui se passait. Personne n'a fait le déplacement des 8 ou 10 kilomètres au maximum pour aller à Bethléem et voir si s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Personne de Jérusalem n'est venu. Jésus ira avec ses parents en Égypte et on va oublier ces gens, tout simplement. À Nazareth, quand ils vont revenir, Jésus sera sans aucun doute le plus gentil garçon du village. On sait tout sur lui, c'est un bon garçon. Et au début de son ministère, Jésus est dans la foule avec les autres et il écoute Jean-Baptiste prêcher. Personne ne sait qui il est. Il faudra que Jean-Baptiste, devant tout le monde, fasse les présentations et dise « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde ». Il faudra que Jean-Baptiste le dise haut et clair à tout le monde. Mais de cette foule, il n'y en a que deux qui vont chercher à savoir un peu plus sur Jésus, qui vont aller avec lui pour le suivre et lui poser des questions. De la foule, personne d'autre ne va chercher à savoir qui est cet homme-là. Personne n'imagine un seul instant qu'il est le Créateur en personne. Ainsi, Jésus semble véritablement faire autrement que ce que nous aurions fait. Et le texte du prophète Ésaïe l'avait annoncé 700 ans à l'avance. Ésaïe avait dit exactement de quelle manière il allait venir. Au chapitre 53 de son livre, Ésaïe écrit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Le texte commence par une question qui dit finalement, mais qui a cru véritablement que c'était Dieu qui agissait dans cette affaire? Et la question laisse sous-entendre la réponse, mais personne. Simplement parce qu'il est venu de manière à ne frapper les regards de personne. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce n'est pas en le voyant qu'on était attiré par lui. C'était en le connaissant personnellement. Ainsi, Jésus vient de la manière la plus simple, la plus commune qui soit. Et ainsi, lorsque Jésus vient dans son peuple, il rencontre des attentes extraordinaires. On attendait un Messie libérateur, quelqu'un qui allait avoir le cran de résister à l'envahisseur, de résister aux Romains. On attendait une grande carrure. On attendait un chef, un personnage imposant, une personnalité douée de cette capacité d'impressionner le monde. On attendait quelqu'un qui allait forcer l'admiration et le respect des foules. On attendait quelqu'un qu'on allait pouvoir mettre sur un piédestal en évidence, quelqu'un vers qui tout le monde allait regarder, comme le chef. On l'aurait fait naître dans un palais. On aurait eu tous les projecteurs sur lui. On l'aurait mis à l'abri, il aurait eu des gardes suisses autour de lui pour le protéger. On aurait fait tout ce qu'on a pu penser pour mettre en évidence cet enfant et le protéger. Mais voilà que Jésus vient et il dit, si un soldat romain te demande de porter son sac sur un kilomètre, porte son sac sur deux. Jésus vient et dit, si tu veux te préparer pour le royaume des cieux, il y a une chose à faire. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Jésus vient et il dit, va et ne pêche plus. Ce n'est pas avec un personnage comme ça qu'on va libérer un peuple de l'emprise des Romains. Et c'est ce que tous les gens pensent. Ce n'est pas avec un personnage comme ça que l'on va arriver à retrouver notre gloire passée. Quand Jésus va guérir cet handicapé à la piscine de Bethesda, il est venu comme n'importe quel homme et il s'est présenté à lui, il lui a parlé. Et puis cet homme s'est levé, il est parti. Les gens n'ont même pas eu le temps de voir ce qui s'était passé. Lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jaïrus, il va renvoyer tout le monde. Et c'est dans la chambre avec les parents que le miracle va avoir lieu. Il n'y aura personne pour voir. Ce sera dans le silence, dans le calme, dans l'intimité. Quand Jésus fait un miracle, il n'arrête pas tout le monde en disant « Écoutez, regardez bien ce qui va se passer. » Il ne fait pas venir les journalistes, la radio, la télévision et tout le monde pour filmer l'événement. « Regardez, je vais faire un miracle. 1, 2, 3. » Voilà. Et on passe ça à la télévision, et on le repasse le soir, et on le repasse le matin pendant 15 jours. Et il y a des articles comme ça dans les journaux. Non. Quand Jésus fait un miracle, il le fait dans un geste que tout le monde fait tous les jours. C'est commun. Pas de spectacle, pas d'extraordinaire, pas d'effets spéciaux. Quand Jésus agit avec toute la puissance du Créateur, c'est dans une action commune, une action quotidienne, sans éclat, sans publicité. Et toute sa vie a été comme ça. Jésus est né dans une mangeoire qu'on lui avait prêtée. Jésus a été enterré dans un tombeau qu'on lui avait prêté. On attendait de lui de la publicité, du spectacle, de l'impressionnant, du tape à l'œil. Et il n'a rien fait de tout ça. Il était véritablement le Dieu le plus discret que l'on ait jamais imaginé. Ses frères, sa famille, son entourage d'ailleurs, le poussaient à satisfaire la demande de son temps. Regardez par exemple avec moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7. Évangile selon Jean, au chapitre 7, au verset 3 et 4, il nous est rapporté ceci. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Écoute, lui disent ses frères, si tu veux paraître, tu as choisi la mauvaise méthode. Et ces pauvres gens pensaient apprendre quelque chose à Jésus. Il avait la méthode de Dieu pour agir. C'est eux qui avaient la mauvaise. Paraître, c'est la méthode de l'ennemi. Et c'est celle que nous avons acceptée, nous les humains. Et je crains malheureusement qu'aujourd'hui, le monde chrétien reproduise la même erreur, cherche à faire de Jésus la même chose que ce que son peuple, il y a 2000 ans, voulait faire avec lui. On cherche du spectacle. Et pensez un instant à ce qu'on a fait de la naissance de Jésus. Pensez un instant à ce que le monde chrétien en a fait. Un grand spectacle, un grand commerce, un grand show. Et ce n'est pas simplement le monde chrétien, Noël, c'est pour le monde entier. Le Japon, par exemple, n'est pas un pays chrétien ou majoritairement chrétien, mais ils vont fêter aussi Noël, eux. Ça s'appelle Kurisumasu. Ils ont fait un mot à partir de Christmas, Kurisumasu. Ils vont fêter aussi Noël. Ce sera la fête du Père Noël et ce sera une espèce de Saint-Valentin. Mais aussi vont fêter Noël. C'est une affaire mondiale, Noël. C'est un business mondial. Pensez qu'un grand nombre d'entreprises dans notre pays vont faire la moitié de leur chiffre d'affaires simplement autour du mois de décembre et de Noël. Avez-vous pensé aussi à combien d'entreprises en Chine travaillent et fonctionnent à plein régime pendant les mois d'été ? Quand vous êtes sur la plage, que ces entreprises fonctionnent à plein régime pendant les mois d'été pour fabriquer tous les gadgets qui vont servir aux Occidentaux pour vivre Noël 6 mois plus tard. Jésus, on en a fait un grand personnage. On a fait une statue de Jésus tellement grande qu'à Rio de Janeiro, de tous les coins de la ville, on peut le voir, le Jésus en pierre. On a fait de Jésus une superstar, le héros de films à grand spectacle. Et aujourd'hui, les églises les plus populaires Les églises les plus en vue, ce sont les méga-églises qui vont rassembler des milliers de gens chaque semaine, avec grand spectacle, avec grand orchestre, avec chœur immense et impressionnant. On va faire venir les orateurs les plus exceptionnels pour envoûter ces foules. Voilà ce qu'on a fait du Jésus des évangiles. Et je crains qu'aujourd'hui, on ne veuille faire de Jésus encore une fois la même chose que ce que les gens il y a 2000 ans voulaient faire de lui. Un homme à spectacle. Nous les humains, nous voulons à tout prix que Jésus soit maintenant ce qu'il a promis qu'il serait à sa deuxième venue. Nous voulons l'avoir maintenant, le spectaculaire, le glorieux, l'extraordinaire, le grand son et lumière que Jésus a promis à son retour, nous le voulons maintenant. Et c'est sûr, relisez Matthieu 24, Jésus a promis que lorsqu'il viendrait, ce serait avec puissance et une grande gloire. Et il n'y a personne qui peut imaginer aujourd'hui ce que ça veut dire, la puissance de Dieu et sa gloire lorsqu'elle se manifeste. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ceux qui aujourd'hui veulent que Dieu fasse du spectaculaire, lorsque ceux-là veulent que Dieu agisse d'une façon impressionnante, ceux qui veulent que Dieu aujourd'hui fasse des choses surnaturelles et extraordinaires, ceux qui invoquent le Seigneur et qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait devant telle ou telle situation ?» et qui demanderaient presque au feu de tomber du ciel, ceux-là, lorsque Jésus reviendra et qu'il y aura son et lumière à la dimension de Dieu, diront « Montagne, tombez sur nous, cachez-nous dans la face de celui qui est assis sur le trône. » Ainsi, on voudrait voir aujourd'hui, dans le caractère de Jésus et dans son action, ce qu'il a promis de faire à la fin des temps. Et la tentation est encore là pour nous de demander à Dieu de faire des grandes choses, d'agir en grand. Et c'est d'ailleurs ce que le monde d'aujourd'hui nous envoie au visage. Il est où ton Dieu quand un tsunami arrive? Il est où ton Dieu quand les petits-enfants se font massacrer? Il est où ton Dieu? Et on voudrait qu'il tombe du ciel. Le théâtre ancien d'ailleurs avait fabriqué cette espèce d'attente. Le théâtre ancien créait des situations inextricables, où les personnages étaient pris dans des affaires dont ils ne pouvaient pas sortir. Et lorsque la tension était assez grande, au bout d'une ficelle, ploc, on lâchait une image du Dieu et qui apportait la solution à tous les problèmes humains. C'était le Deus ex machina, qui au dernier moment faisait son apparition et réglait tous les problèmes humains. On voudrait aujourd'hui introduire cette mentalité païenne dans le Christ de la Bible. Qu'au dernier moment, quand tout ne va plus, quand on ne sait plus quoi faire, voilà, il tombe du ciel, la solution toute prête, toute cuite, et qui résout tous les problèmes. Ça, ce serait un Dieu fantastique au goût d'aujourd'hui. Mais Jésus avait promis qu'il en serait ainsi à la fin des temps. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, au chapitre 13, il est question d'une bête, d'une puissance, autrement dit, qui agit à la fin des temps. Et en parlant de cette puissance, Jésus disait qu'elle faisait des prodiges, des grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Elle essayait de séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Séduire par des prodiges. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, Jésus parle encore de cela en rapport avec la fin. Prenez avec moi ce texte, voulez-vous, lisons-le dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Un texte très fort de Jésus, à partir du verset 21. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous remarquez dans ce passage ce que mentionnent ces croyants qui discutent avec Jésus, soi-disant, dans cette présentation. Ces croyants disent, mais Seigneur, regarde ce que nous avons fait. Et ce sont toutes des choses extraordinaires. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé des démons. Ils ont opéré des miracles au nom de Jésus. Ils présentent dans cette discussion les choses extraordinaires, spectaculaires qu'ils ont faites. Et Jésus dit, ce que vous aviez fait là, c'est l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Même lorsque vous faisiez cela, je ne vous connaissais déjà pas. C'est dire à quel point Jésus met ici en scène des croyants qui, pris par cette mentalité du spectaculaire et du tape à l'œil, pensent être les instruments de Dieu dans le monde et ne le sont pas. Parce que Jésus, le Jésus des évangiles, n'est pas comme ça. Le Jésus des évangiles, c'est le Dieu discret. Le Jésus des évangiles n'est pas dans le tonitruant, n'est pas dans le spectaculaire, n'est pas dans le tape à l'œil. Puisqu'il n'y est pas, ne le cherchons pas là. Allons donc alors le chercher là où il est. Et la Bible nous dit où il est. Il est dans ce qui ne frappe pas les regards. Ainsi, le miracle le plus extraordinaire, le plus incroyable qui ait jamais été accompli, c'est sans doute ce miracle par lequel Dieu lui-même va disparaître du ciel et venir dans le monde en passant par la forme du bébé, réduit à quelques cellules pour commencer. Si l'on attend le grand roi, le libérateur, on est pris au dépourvu parce que ce n'est pas l'image que l'on se fait d'un libérateur qui vient pour sauver le monde. Il commence trop petit. Ce qu'il y a, c'est que Jésus semble faire l'inverse de ce que nous attendons toujours. Le royaume des cieux semble être à l'inverse de ce que nous en avons pensé. Réfléchissez un instant avec moi à la façon dont Jésus présente son royaume. Son royaume dont il disait, il n'est pas de ce monde. Ainsi Jésus dit, on vit en mourant. On est gagnant en perdant. On est victorieux grâce à notre défaite. On gagne une bataille quand on se rend. Le succès, c'est quand nous sommes frappés par l'échec. On ne s'enrichit qu'en donnant. On est fort quand on est faible. Et on ne peut être un nouveau-né que quand on est un adulte. C'est dire à quel point Jésus nous surprend toujours et se trouve là où nous ne l'attendons pas. Mais il n'est pas là non plus où nous l'attendons. C'est pourquoi je vous propose, dans cette période de Noël, de voir et d'aller rencontrer Jésus là où il se trouve. De rencontrer de nouveau le Dieu discret. Celui qui exerce sa plus grande puissance dans les gestes quotidiens. Celui qui accomplit les miracles les plus extraordinaires sans que personne ne s'en rende compte. Et aujourd'hui, si nous voulons voir ce Jésus tout-puissant, si nous voulons voir le roi des rois, le Fils de Dieu, allons le chercher là où il se trouve. Et où se trouve-t-il? Ce Jésus-là se trouve lorsque le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune est attiré à lui, changé par lui dans une véritable conversion. C'est là le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir aujourd'hui et qui va passer inaperçu aux yeux de beaucoup. Mais si, dans cette période de Noël, vous voulez voir Jésus là où il est vraiment, allez donc le chercher là où il se trouve, dans l'exercice de sa puissance au travers de ce qui semble être commun. Parce que le plus grand miracle qui puisse être accompli dans cette période de Noël, c'est la conversion d'un de ceux qui a été créé à l'image de Dieu. À Noël, si un homme, une femme, un jeune se tourne vers Jésus, se laisse attirer par lui, laisse son cœur changer par lui, il y aura là le plus grand miracle que Jésus puisse faire. Sans peut-être le spectaculaire que beaucoup attendraient, mais avec la puissance du Dieu créateur. Et Jésus nous a dit que lorsque un miracle de ce genre a lieu, les anges chantent dans les cieux et ils chantent encore pour chaque conversion qui se vide secrètement dans le cœur d'un homme et d'une femme. Ils chantent encore « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ».